Là, ça rigole plus. Hein. Alors ce matin, j'aimerais vous parler des finances. Et sans vouloir faire de jeu de mots, ça me coûte de vous parler des finances. En fait, c'est parce que tout simplement, je suis en train d'apprendre à dépendre de Dieu. Et il y a des principes que je suis en train d'apprendre et ça passe souvent aussi par des luttes. Tout simplement aussi parce que quand on parle de finances, on a un combat spirituel entre Dieu et Mammon et les puissances de l'argent qui veulent nous maintenir dans des ornières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis agriculteur, donc vous connaissez un peu la situation de l'agriculture en ce moment. Et je n'ai pas échappé non plus à des difficultés, et en particulier l'année dernière. Et donc, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que Dieu prend soin de nous. On l'a déjà chanté, on en a déjà parlé. Denis a aussi parlé de Hébreux, où il est question du trône de grâce, et de Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui nous secourt en bon moment. Alors j'aimerais d'abord tordre le cou à quelques idées reçues par rapport aux finances, et ensuite j'aimerais prendre l'exemple de semer et récolter, et j'aimerais terminer par un exercice que vous pourrez faire chez vous. C'est un exercice très simple techniquement, mais qui est très compliqué d'un point de vue chronologique. Mais c'est un exercice, vous pouvez le prendre même de manière prophétique sur votre vie. Donc, le point central, c'est Dieu prend soin de nous. Et quand nous lisons dans Matthieu 6, au verset 32, quand Jésus dit, pourquoi vous demandez-vous que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont les païens qui se préoccupent de ça. Mais vous savez que Dieu prend soin de vous. Dieu sait que vous en avez besoin. Alors cette parole, elle est chouette, mais quand même, je trouve ça dur d'être traité de païen parce que je me demande ce que je vais manger demain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois on se pose quand même la question, ben, et comment je vais m'habiller, et puis, comment ça continue, comment ça va être dans un mois ou dans deux mois. Ce sont les païens qui se préoccupent de ces choses. Alors ça me fait réfléchir parce que moi je me préoccupe de ces choses, je ne sais pas vous, mais moi je me préoccupe. Alors je me dis, Seigneur, je crois que je ne te fais pas confiance. Donc ça c'est un travail numéro un. C'est l'Éternel qui prend soin de moi et ce n'est pas moi qui peux changer des choses. En fait, j'ai remarqué une incohérence récemment. Alors vous avez devant vous un homme à qui Dieu a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, recouvrez la terre, rendez-vous en maître, dominez sur tous les oiseaux, les animaux, les champs, etc. » Et en fait, moi j'ai devant moi des hommes et des femmes à qui Dieu a dit la même chose. Et là, nous sommes en train de pleurer. Ah, les subventions agricoles ont encore baissé de 10%. Et les allocations familiales ont changé. On a un garçon qui est devenu majeur. On a encore perdu des allocations. Enfin, ce n'est pas notre cas parce qu'ils sont majeurs depuis plus longtemps. Mais... Et mon patron ne veut pas m'augmenter. Enfin, toutes sortes de choses. Est-ce que vous saisissez l'incohérence ? Dieu nous a donné les clés de sa création, il nous a donné l'autorité pour gérer sa création, et nous, nous pleurons parce que les aides de l'État ne viennent pas. Il y a quelque chose qui doit nous parler là. Et en fait, c'est comme le peuple d'Israël qui a été corrompu par la mentalité de l'Égypte, par le système de Pharaon. Ils disent, ok, nous sommes esclaves, mais au moins on a du pain tous les jours. Nous avons été dépouillés de notre mandat de gouverner. Et nous avons accepté une situation d'esclave. Alors c'est vrai que nous sommes esclaves, mais au moins nous touchons nos allocations, nous avons des subventions, si on a de la chance, on a un 13e mois. Alors je ne suis pas en train de vous demander de sortir du monde et de plus travailler pour un salaire, etc., mais simplement de repositionner les curseurs au bon endroit. Moi, je veux sortir de cette situation d'esclave et être un fils et gérer les choses que Dieu m'a confiées avec l'autorité qu'il m'a donnée. Alors Dieu donne aussi des stratégies. Alors par exemple, l'année dernière, il y a une partie de ma ferme qui était inondée, qui a eu des problèmes. Enfin, j'ai pas pu accéder quand il fallait pour faire différents travaux. Et donc, le résultat, c'est que la récolte était la moitié de ce que j'aurais pu espérer. Et il y avait des mauvaises herbes aussi. Enfin, c'était la catastrophe. Et j'étais là en train de moissonner cette misère. Et Dieu m'a parlé et il m'a donné une stratégie pour ces champs en particulier. Et en fait, j'étais dans la détresse du moment de la récolte, et en même temps, Dieu m'emmenait dans l'espérance d'une nouvelle récolte. Et là, je moissonnais, et Dieu me disait, demain, tu reviens ici avec telle machine, tu ne récoltes pas les autres parcelles, d'abord, tu reviens ici avec telle machine. Et en fait, Dieu me montrait des priorités qui n'étaient pas les bonnes dans ma façon de gérer. Et là, je suis tenté de vous raconter l'histoire de Herbie, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. L'histoire de Herbie. Alors, c'est un Américain, moi, je ne connais pas ce prénom, mais ça doit signifier quelque chose en particulier. J'ai entendu cette histoire aux États-Unis. C'est donc un homme d'affaires qui a confié une de ses entreprises à un homme parce que cette entreprise était en difficulté. Et il lui a dit, voilà, je te donne 6 mois, si dans 6 mois tu n'as pas redressé la situation, on vend l'affaire. Et cet homme était aussi chef chez les scouts. Et donc ce week-end-là, il était parti avec sa troupe, et ils ont dû marcher pour arriver jusqu'au bivouac. Et dans cette troupe, il y avait Herbie. Alors je ne sais pas comment ça s'écrit, mais en tout cas, il y avait ce Herbie. Et Herbie n'avançait pas très vite. Alors, toute la troupe marchait pendant un quart d'heure et ils devaient arrêter pour attendre Herbie pendant 10 minutes. Et ils ont fait ça. Ils ont marché un quart d'heure, ils s'arrêtent attendre Herbie. Au bout d'un moment, ils se sont dit, ça ne va pas aller comme ça. Ça ne marche pas. On va mettre Herbie devant. Comme ça, tout le monde va suivre Herbie et on sera tous ensemble. Alors, ils ont bonne idée. Et ils ont commencé à marcher, puis à un moment donné, ils se sont dit, c'est pas possible, avec Herbie devant, on n'arrivera jamais avant la nuit. Alors ils ont décidé d'enlever tout ce qui pesait sur Herbie, vraiment de lui donner toutes les capacités maximum pour avancer le plus vite possible, optimiser la condition Herbie. Donc ils ont pris ses paquetages, enfin tout ce qu'ils pouvaient prendre pour que Herbie avance le plus vite possible. Et comme ça, ils y sont arrivés. Alors il est revenu dans son entreprise le lundi matin et puis il s'est rendu compte, tiens, finalement dans cette entreprise, ça marche pareil. On investit le maximum dans ce qui marche et ce qui marche moins bien, ben, ça vient en dernier parce que de toute façon, il faut que ce qui marche, marche. Et en fin de compte, c'est ce qui va le moins bien qui freine toute l'entreprise. Donc là, il y a une logique qui devrait s'inverser. Et donc, il s'est mis à la recherche de Herbie de l'entreprise pour pouvoir vraiment mettre le paquet afin qu'il aille plus vite et que toute l'entreprise aille plus vite. Et donc moi j'étais dans ma moissonneuse en train de faucher et Dieu me dit, ça c'est ton Herbie. Et c'est vrai qu'en fait j'ai une partie qui a un fort potentiel et donc je mets le maximum. Les meilleures conditions c'est pour cette partie, pour vraiment avoir le maximum. Et ce qui reste, c'est pour Herbie. Donc, quand j'ai fini, je vais faire ce qui a moins de potentiel parce que, de toute façon, ça produit moins. Mais en fait, la conséquence, c'est que j'ai toujours des très mauvaises conditions pour faire ces parcelles. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu vas inverser. Les meilleures conditions vont être pour ces parcelles. Et les autres parcelles, tu trouveras toujours un moment pour les faire de manière correcte. Alors, c'est une longue histoire, mais ça peut peut-être vous aider. Nous avons tous des herbies dans nos vies, et si nous pouvons faire le maximum dans les autres domaines, si Herbie n'est pas soulagé, ben, ça n'ira pas plus vite. Alors, quelques idées reçues. Il y a des chrétiens qui vivent du fruit de leur travail, et il y a des chrétiens qui vivent par la foi. Alors, ça c'est quelque chose qui est possible quand on a une pensée dualiste. Dieu est un, il a une seule manière de penser. Et donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous vivons tous par la foi. Vous êtes d'accord? On ne peut pas vivre, mais moi je travaille, donc c'est moi qui gagne mon pain. Ah, toi tu vis par la foi? Ah ouais. Tout le monde vit par la foi. Enfin, les chrétiens qui ont compris que c'est Dieu qui prend soin d'eux, ils vivent par la foi. Alors c'est sûr que Dieu peut se servir d'un salaire, il peut se servir aussi de l'allocation chômage, il peut se servir des allocations familiales, enfin de toutes sortes d'aides. Dieu peut se servir de tout pour subvenir à nos besoins. Mais nous ne dépendons pas de ces sources de revenus. Qu'est-ce qui se passe si tu perds ton travail? Tu es en panique parce que c'est ton patron qui pourvoit tes besoins. Qu'est-ce qui se passe si tu es en fin de droit au niveau du chômage? Est-ce que tu es dans la confiance que Dieu va pourvoir d'une autre manière? Alors, vraiment, j'aimerais pas que vous sentiez méprisé si vous êtes dans des situations difficiles, parce que j'aimerais simplement nous aider à avoir de l'espérance et à mettre quelques repères. Donc, ça c'est une idée reçue. Une deuxième idée reçue, c'est que les riches sont des voleurs. Alors, moi je peux dire facilement, parce que là en ce moment je ne suis pas très riche, mais comment vous réagissez quand vous voyez une grosse voiture qui vous double? Quelle belle voiture, ça c'est la première réaction, mais la deuxième, comment il s'est payé cette voiture, punaise, la vie est injuste. Alors, c'est vrai qu'on pourrait certainement tous raconter une histoire où on s'est fait avoir dans une transaction commerciale, dans un héritage, enfin toutes sortes de choses où tout le monde a une histoire à raconter, où quelqu'un a abusé de notre naïveté. Mais encore là, je me dis, mais si c'est Dieu qui prend soin de moi, si c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins, est-ce que quelqu'un qui m'arnaque peut déterminer mon niveau de prospérité? Est-ce que quelqu'un qui a profité au niveau d'un héritage, est-ce que c'est lui qui va déterminer mon niveau de prospérité? Est-ce que vous me suivez? C'est Dieu qui définit mon niveau de prospérité, et c'est ma foi en Dieu. Donc les riches, il se peut bien qu'ils soient bénis, tout simplement. On n'a pas le droit de juger. Certainement qu'il y en a qui sont voleurs, ça appartient à Dieu de le dire, mais il y a des riches qui sont bénis, tout simplement. Et moi, je veux être béni aussi. Alors la question, c'est pas de devenir de plus en plus riche, mais c'est parce que quand Dieu nous donne avec largesse, nous pouvons aussi partager. Et je pense que le week-end prochain, Luc Maroni va nous parler de ça, de notre impact dans la société, au niveau économique, avec ce que Dieu nous a donné. Une autre idée reçue, pour éliminer la pauvreté, il faudrait redistribuer les richesses. Donc on prend aux riches et on donne aux pauvres. Ça, ce serait une bonne chose. Et là, je reviens sur la parabole des talents que Manuela a déjà citée tout à l'heure. Donc, il y a un homme qui a reçu un talent, un autre homme qui en a reçu deux, un autre qui en a reçu cinq. Et quand le maître revient, celui qui en a reçu cinq, il en avait cinq de plus. Celui qui en avait deux, il en a deux de plus. Et celui qui en avait un, il en a toujours que un. Alors je ne vais pas m'étendre sur cette parabole, mais simplement sur la conclusion où Jésus dit, en fait, ils disent, voilà, prenez le talent de celui qui en a que un et donnez-le à celui qui en a dix. Alors ça, ce n'est pas du tout notre façon de voir les choses. Celui qui en a dix, déjà, il aurait dû payer l'impôt sur la fortune. Il aurait dû payer la CSG et on aurait dû redonner à celui qui en a que un pour être équitable. En fait, Jésus dit, prenez celui qui en a que un, prenez-le lui et donnez à celui qui en a dix. Parce que à celui qui a, on donnera encore, à celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. Alors ça, c'est aussi, c'est pas notre façon de penser, parce que nous, on aurait d'autres idées. Alors si je vous dis ça, c'est pas juste pour vous dire, bah ouais, il y en a qui ont, il y en a qui n'ont pas, et puis voilà, si t'as pas de chance. Mais simplement pour nous réorienter sur le fait que c'est Dieu qui prend soin de nous. Si nous comptons sur ce genre de justice, alors nous avons de l'espoir tous les 5 ans. On espère que c'est le bon qui sort et que nous aurons un peu plus que maintenant. Et au bout de quelques semaines, on se rend compte que finalement, il n'y a rien qui a changé pour nous. Mais si on se détache de ça, alors nous avons de l'espérance. Parce que nous savons que si nous gérons les choses comme Dieu nous le demande, il va ajouter. Parce que finalement, la pauvreté ou la richesse, ce n'est pas une question de somme d'argent, c'est une question de savoir gérer. Et moi, je veux apprendre à savoir gérer. Moi, je veux que ce que j'ai reçu soit au moins multiplié par deux. Donc ça, c'est la parabole des talents. Alors, j'aimerais encore ouvrir une parenthèse avant de parler de semer, de récolter. C'est de la loterie. Alors, quelles que soient les choses où on pourrait jouer pour de l'argent. Moi, je dis tout clairement. Quand on joue à la loterie, on fait deux choses, au moins. La première, c'est qu'on apporte une offrande à Mammon. Et on dit, voilà le système dans lequel je veux vivre. Deuxième chose, c'est qu'on dit, moi je veux pas dépendre constamment de Dieu qui prend soin de moi. Ok, c'est sympa, mais quand même, tous les jours, tu es là en train de dire, est-ce qu'aujourd'hui ça va aller? Donc, si j'avais un petit pactole de côté, je serais tranquille. Bien sûr, si je gagne l'auto, je donne la dîme. Donc, pasteur Luc, ce serait cool, non? Alors je dis ça parce que j'entends de temps en temps des chrétiens qui me disent qu'ils jouent au loto, donc moi je dis ça. Il faut choisir où on veut vivre, dans quel système on veut évoluer. Donc j'en arrive à semer et récolter. Chris Valentin a dit, quand on était là-bas, « Ne demande pas plus d'argent à Dieu, demande-lui pourquoi tu n'en as pas plus. » Et je trouvais que c'est une bonne question. Parce qu'en fait, ça nous renvoie à nos responsabilités. C'est pas juste, ok, c'est la crise, le chômage et tout ça. Ça, ce sont des explications qu'on peut prendre, mais pourquoi tu n'as pas plus d'argent? Peut-être que Dieu va te répondre, ma grâce te suffit, et c'est bien aussi. Et alors c'est bon. Mais peut-être ça veut aussi dire que nous ne sommes pas forcément capables de gérer plus que ce que nous avons. Et si je veux parler de semer et récolter, j'aimerais un peu ouvrir le spectre en termes de temps et en termes de durée, parce que nous sommes souvent habitués à vivre dans l'instantané. On vit au jour le jour, on prend les choses comme elles arrivent, on n'a pas de stratégie vraiment pour notre vie. Et semer et récolter, c'est clairement une stratégie. Il faut semer, donc c'est une première chose, et il faut savoir quand, il faut savoir quoi, et ensuite on peut espérer une récolte. Alors il y a tout ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, au milieu, je ne veux pas trop m'étendre, mais simplement, Donner cette dimension du temps. Alors j'ai oublié une phrase là. Par rapport à notre situation, c'est vrai que si il y a des situations exceptionnelles ou des accidents de la vie, on ne peut pas juger toutes les situations. J'ai entendu ce témoignage récemment d'un agriculteur en Suisse, un chrétien, qui a son étable qui a brûlé. Donc ça, c'est des situations dramatiques. On ne va pas dire, ah mais c'est parce que tu as semé les mauvaises graines, et puis voilà, donc il ne faut pas réfléchir comme ça. Mais tout simplement, Dieu a aussi utilisé cette épreuve pour lui montrer la solidarité entre les agriculteurs, et même des relations de voisinage qui étaient mauvaises depuis 40 ans se sont d'un coup améliorées et des choses nouvelles sont apparues. Donc nous vivons souvent dans le moment présent et nous devons vraiment avoir cette perspective, une vision à plus long terme. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma stratégie, enfin, que Dieu m'a donnée par rapport au champ. Alors c'est une stratégie que j'ai reçue en novembre, mais je pourrais en récolter le fruit qu'en octobre de cette année. Ce n'est pas instantané. Hop, c'est bon, j'ai compris. Et j'ai déjà fait des choses dans cette stratégie, mais je vais encore devoir en faire jusqu'aux semailles qui vont arriver bientôt, et ensuite je pourrai récolter. Donc il y a de la durée. Alors c'est vrai que Dieu peut faire les choses rapidement, mais il y a des choses que nous devons comprendre dans la durée. Ce que nous vivons maintenant, c'est certainement le fruit de ce que nous avons semé ou de ce que nous n'avons pas semé. Et nous devons vraiment comprendre, enfin, cette image de semer et de récolter. Alors j'aimerais, pour simplifier, séparer en trois nos ressources, enfin nos finances. Donc il y a la dîme, il y a le pain et il y a la semence. Alors il y a vraiment beaucoup d'autres choses, mais c'est pour simplifier, pour comprendre un peu. Donc il y a la dîme, ça ne nous appartient pas, c'est Dieu qui, enfin, on le rend à Dieu. Donc la dîme, c'est 10%. Et là encore, quand on parle de ça, c'est pas toujours évident parce que on peut dire si je donne la dîme, moi je m'en sors pas. Et là, on peut de nouveau se rappeler que c'est Dieu qui prend soin de nous. Alors est-ce que c'est possible que si on fait ce que Dieu nous demande, on ne s'en sorte pas? Alors je juge personne, hein, c'est un combat aussi que je mène. Donc la dîme, ça c'est une chose, et la dîme, c'est pas de la semence, on rend juste à Dieu ce qui lui appartient. Ensuite, il y a le pain. Alors dans le pain, il y a tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc je résume, hein, donc c'est la nourriture, bien évidemment, c'est les habits, c'est le loyer, c'est les impôts, c'est tout ce qu'il faut pour vivre. Et ensuite, il y a la semence. Et la semence, par définition, c'est ce qu'il ne nous faut pas pour vivre, parce qu'on peut le garder pour ressemer. Et si, par contre, si on ne sème rien, on n'a pas de récolte. Celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème en abondance, récolte en abondance. Donc ça, c'est dans 2 Corinthiens 9. Alors, donc la dîme, ça, on ne peut pas calculer autrement. On ne peut pas dire, on peut s'arranger là, mais la semence et le pain, là, il y a des variables qu'on peut trouver. Donc, le pain. Combien est-ce qu'il me faut pour vivre? C'est une question qu'on doit se poser. Et là aussi, je me rends compte que quand on discute avec des gens, finalement, les gens ne savent pas combien il leur faut pour vivre. Eux, leur seul truc, c'est qu'à la fin du mois, ils ne soient pas dans le rouge. C'est tout. Après, le reste. Mais rappelez-vous que Dieu nous demande d'être des gérants. Donc, savoir combien il nous faut pour vivre, ça implique qu'on fasse un budget. Que, par exemple, on note tous les mois ce qu'on dépense et on se rend compte, ah tiens, il me faut tant pour manger, donc la nourriture, ah il me faut tant pour ma voiture, je ne pensais pas. Ah, et puis on se rend compte qu'il y a des frais qu'on ne pense même pas qu'on les a, mais ça sort. Et donc, c'est important d'avoir un budget pour savoir de combien de pain on a besoin. Et ensuite, on sait ce qu'on a comme semence. Ensuite, il y a aussi un point que je dois aborder, c'est la dette. Quand on parle de pain, de semence, il y a aussi la dette. Alors si on a une dette, alors il y a une malédiction sur nos finances. Et quand on a une dette, par définition, on n'a pas de semence. Alors je t'explique ce que c'est la dette. C'est pas quand on a un emprunt à la banque ou quand quelqu'un nous prête de l'argent, c'est pas ça la dette. La dette, c'est quand on doit quelque chose qu'on ne paye pas. Par exemple, si on doit payer un loyer et qu'on le paye pas, on a une dette. Si on emprunte de l'argent à la banque et qu'on a une échéance et qu'on la paye pas, on a une dette. Mais tant qu'on respecte les échéances, on n'a pas de dette. Vous comprenez la nuance? Alors les dettes, c'est souvent dans la famille qu'on a des dettes. Parce que les parents, ils achètent la voiture au fiston, ils disent « Ok, tu me payes quand tu pourras. » Et ça, c'est une dette. Parce que rien n'est défini, comment les choses vont être remboursées. Alors ne faites jamais ça à vos enfants. Ou si vous êtes jeune et que vos parents veulent vous prêter de l'argent, ne le prenez pas. Sinon, en définissant comment vous allez le rembourser. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et par exemple, je vous donne un exemple. Dans ma vie, je travaillais avec mes parents et quand ils ont pris la retraite, on a dissous la société, et j'avais encore du capital à leur payer. Et ça faisait quand même quelques milliers d'euros. Et alors, c'était du genre, ok, bon, ça presse pas. On sait que tu vas nous payer, t'inquiète et tout. Alors, c'est bien, c'est en famille. Mais au bout d'un moment, j'ai compris ce principe de la dette. J'ai dit non. Alors, bien sûr, je remboursais de temps en temps. Quand j'avais assez d'argent, je remboursais. Et alors, j'ai compris ce système de la dette. J'ai dit non, maintenant, je vais définir avec eux une échéance. Mais le problème, c'est que c'était juste au moment où moi, financièrement, je n'avais pas des largesses pour pouvoir rembourser. Mais j'ai obéi à ce principe, je suis allé chez mes parents, je leur ai dit, alors voilà ma situation, voilà ce que je vous dois encore, mais j'ai envie de vous rembourser. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous rembourse 10 euros par mois? Alors, ils étaient d'accord. Donc, moi, je leur rembourse 10 euros par mois. Et je n'ai plus de dette. Alors qu'avant, j'avais une dette de plusieurs milliers d'euros. Vous comprenez la situation? Et 10 euros, c'est ridicule. D'un point de vue humain, c'est ridicule de donner 10 euros par mois. Il va me falloir 10 ans, même plus, je ne sais pas combien, si je reste à ce rythme-là. Mais comprenez, c'est que en faisant cela, je sors de la malédiction qu'il y a sur mes finances parce que j'ai une dette. Et moi, je ne prévois pas de leur rembourser en 20 ans. Moi, je prévois que dans un an, moi, j'ai plus d'argent pour leur rembourser 100 euros par mois ou même plus. Vous comprenez? C'est le principe. Je sors de la dette, je trouve mon créancier, je sors de ma dette, je me mets d'accord avec lui et je rembourse, même si ce n'est pas grand-chose. Ça peut être 1 euro si la personne est d'accord. Mais le principe de sortir de la dette. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a des dettes parce qu'on a... Ouais, c'est des trucs entre potes, je veux dire, c'est pas important, mais c'est important spirituellement dans notre façon de gérer les choses, que les choses soient claires. Donc, si on a réglé cette histoire de dette, alors on peut de nouveau imaginer qu'on ait de la semence. Alors, je fais une parenthèse aussi, c'est que parfois, on entend la chose suivante. Lorsque tu donnes, donc souvent au niveau au temps des offrandes, lorsque tu donnes, n'attends rien en retour. Tu donnes et c'est donné. Ou alors on entend, lorsque tu donnes, tu sèmes et tu auras une récolte. Alors il faudrait savoir comment on fait. Alors j'en reviens, c'est pour ça que j'ai un peu détaillé avant, au pain et à la semence. Si à la fin de ton mois, tu as tout payé, loyer et tout, et qu'il te reste de l'argent, tu peux semer, tu as de la semence. Mais si à la fin du mois, tu n'arrives pas à payer ton loyer parce que tu es trop juste, clairement, tu n'as pas de semence. Donc, si on est dans ce cas de figure, je fais une offrande et je dis, soutenez cette œuvre parce que là, vous semez, vous allez récolter. Et moi, je me laisse toucher, mais je n'ai pas payé mon loyer. Alors, je ne vais pas semer de la semence, je vais semer mon pain. Vous comprenez la différence? Je sème mon pain et mon pain, il va pourrir. Il va pas porter du fruit et apporter une récolte. Par contre, s'il me reste de l'argent parce que j'ai tout payé, j'ai de la semence, ok, là je donne, là je sème et je vais avoir une récolte. Alors, on peut se poser la question aussi, donc, on peut donner son pain. Ça, c'est une autre dimension. Mais quand on parle de semer, on sème de la semence. Mais on peut donner son pain. On peut partager son pain avec celui qui est dans le besoin. Ça, c'est possible aussi. Mais là, on n'attend rien en retour. Quand on donne, quand on partage son pain, on n'attend rien en retour. Donc ça met un peu les deux éléments d'accord. On peut donner sans rien attendre. Mais quand on sème, on attend une récolte. Et donc c'est important de savoir, d'avoir cette connaissance de combien il nous faut pour vivre. Et après, quand on sait combien il nous faut pour vivre, on peut aussi demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec mon train de vie? Est-ce que tu es d'accord avec mes différents postes de dépenses? Et Dieu peut aussi nous conduire là à des changements de façon de vivre. Et donc si nous sommes normalement dans une situation normale, on devrait avoir la dîme. Alors la dîme, c'est en même temps le minimum, parce que quand tout est à Christ, il peut demander tout. Vous êtes d'accord? Mais donc la dîme, il y a le pain, il y a la semence. Normalement, on devrait avoir ces trois choses. On devrait avoir assez pour manger, pour vivre. On devrait avoir assez pour semer. Et on devrait avoir assez pour donner la dîme. Alors on peut aussi manger sa semence, et ça c'est pas bien non plus. Donc si on mange trop, enfin je veux dire si on prend trop pour nos besoins, par exemple si on fait un peu des trop grandes vacances, si on achète un peu une trop grande voiture, enfin je veux dire si on se met dans des frais trop importants, ben, on peut manger sa semence, mais ça c'est pas bien non plus, parce que normalement on doit pouvoir semer tout le temps. Si comme ça se passe dans la vraie vie, dans la nature, c'est que normalement l'agriculteur il sème, il récolte. Au moment de la récolte, il met de côté ce dont il a besoin pour semer l'année d'après. Sinon, ça se termine. Donc il met de côté ce qu'il lui faut pour semer l'année d'après, et le reste, il peut le manger. Et parfois, nous, dans nos civilisations, on n'a pas du tout cet équilibre. On veut vivre. Aujourd'hui, la société, Manuela nous parlait d'être des consommateurs. Donc plus on achète, mieux c'est. Mais ce n'est pas du tout en cohérence avec cet équilibre dîme, pain, semence. Donc c'est important qu'on soit vigilant dans ces différentes choses. Donc la semence, c'est pas pour manger, c'est pour semer. Le pain, c'est pas pour semer, c'est pour manger. Et maintenant j'en arrive à l'exercice pratique que vous pouvez faire. Alors c'est pas aujourd'hui, mais vous pouvez le faire chez vous et ça va durer longtemps. Non, simplement c'est pour vous donner cette perspective qu'il faut du temps. La semence que je vais semer, je dois attendre qu'elle arrive à maturité pour la récolter. Donc je vous propose de semer des tomates. Alors on peut déjà semer, alors Christophe, toi tu es spécialiste, mais je crois qu'on peut maintenant commencer à semer des graines de tomates pour, à l'abri bien sûr. Alors si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez le faire dans votre salon. Non, sans rire, une année, on avait 3 pieds de tomates dans notre salon, et ça pousse bien, et on a eu des tomates dans le salon. Et donc, vous pouvez le faire à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, l'exercice consiste déjà à semer. Donc, je vous dis, vous pouvez commencer là, si vous voulez que les tomates arrivent à maturité en été. Et ensuite, je vous invite à récolter une tomate de ce que vous avez semé et pour reprendre de la semence. Alors, ce n'est pas compliqué, hein, y a des graines dans les tomates, vous les mettez de côté et vous les semez. Et donc, vous pouvez les ressemer l'année d'après. Donc, vous avez fait ce système, vous semez une première fois, donc là, vous êtes obligé d'acheter de la semence parce que vous n'avez pas prévu le coût. Et vous récoltez une tomate. Alors, je vous dis que c'est compliqué. Hein. Enfin, dans le temps, c'est compliqué. C'est très facile, mais... Parce qu'il suffit que quelqu'un voit qu'il y a une belle tomate, il la mange. Et quand vous êtes nombreux dans la maison, ben, c'est foutu. Bon, il y a plusieurs tomates qui vont pousser, mais c'est un exercice quand même. Il faut prévenir tout le monde. Attendez, les gars, moi, je veux une tomate pour la semence, parce qu'il nous faut de la semence pour l'année prochaine. Donc, il faut se mettre d'accord. Ensuite, l'année d'après, bah, vous semez votre semence. Alors, j'ai fait ça, ça a marché. Et alors, vous vous rendez compte, et là, vous devenez sélectionneur. Vous vous rendez compte qu'il y a des tomates qui poussent plus vite que les autres. Alors moi, j'ai noté, j'ai dit, celle qui a poussé vite, c'est de celle-là que je vais prendre une tomate parce qu'elle est vigoureuse, ça part vite. Alors vous commencez à réfléchir à ce genre de choses. Et une fois dans le jardin, vous voyez quelle plante tomate résiste le mieux aussi aux maladies. On dit, ah, c'est de là. Si ça se trouve, c'est la même. Et là, il faut vraiment protéger la semence. Il faut prendre une tomate, mettre la semence de côté. Alors j'ai fait ça. Donc, cette année, je vais semer la deuxième génération de tomates. Donc j'ai déjà récolté 2 fois de la semence des tomates. Et quand vous avez de la semence, il faut encore une fois être très vigilant. Parce que moi, j'étais posé sur un papier, un sopalin, pour les sécher sur mon bureau, et quelqu'un a fait le ménage, pensait que c'était un papier souillé. Hop, poubelle. Donc vous imaginez la détresse du cultivateur. Ça fait 2 ans que je sélectionne et c'est parti à la poubelle. Et donc, je l'ai vu le soir même, heureusement, j'ai fouillé dans la poubelle. Et j'ai retrouvé mes graines de tomates. Alors, c'est un peu humoristique, mais franchement, je vous encourage à faire cet exercice parce que vous devez constamment rester éveillé. Et la Bible nous enseigne d'être éveillé. C'est pas quelqu'un qui vient toquer à votre porte et qui vous dit « C'est l'heure de manger, tiens !» Mais c'est vraiment rester en éveil, d'avoir cette chronologie des choses. Alors c'est des tomates, mais c'est une image aussi de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Il y a des temps que nous devons respecter, il y a des temps de Dieu où nous devons être là, et nous devons comprendre ces temps. Alors je ne veux pas rallonger plus, mais vous me direz dans un an si vous avez réussi à sauver des graines de tomates. Alors vous pouvez le faire avec autre chose, simplement... Le blé, c'est moins sympa, ça pousse aussi, mais c'est peut-être moins rigolo de manger du blé que de manger des tomates. Du blé germé, oui. Mais là, tu raccourcis encore le cycle. Tu es dans l'instantané, Maniela. Non, mais simplement, ce matin, je vous invite à... On l'a déjà fait tout à l'heure, sortir de l'ornière... où ce monde voulait nous emmener avec le système financier, les logiques financières, de dire nous sortons de ce système, moi je veux maintenant prendre les choses en main pour ma vie, je veux chercher auprès de Dieu la sagesse, je veux chercher auprès de Dieu l'autorité, je veux retrouver ce qu'il m'avait donné au départ, Et Jésus-Christ nous a ouvert cette porte par la croix. Il a rendu les choses possibles. Ce qui était perdu est de nouveau possible. Alors je vais simplement prier courtement, mais vraiment que nous puissions décider dans nos cœurs ce matin. Maintenant, on veut sortir de ce système où on est esclave et on veut rentrer dans l'économie du royaume de Dieu, où nous sommes des fils et des filles. Et nous rendre vulnérables aussi. Dieu doit parfois... Enfin, moi, par exemple, il m'a montré des choses que j'ai mal faites. Je veux dire, c'est pas juste l'économie du monde qui va mal et c'est pour ça qu'on va mal. Il y a des choses que j'ai mal faites, c'est aussi pour ça que je suis dans cette situation. Mais Dieu va nous conduire dans des chemins de victoire. Alors Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Et il n'y a aucune puissance qui ne peut venir entraver tes plans. Et Seigneur, tu nous mets dans cette position d'autorité de ceux qui gèrent ta création. Et ce matin, nous choisissons de sortir de l'ornière. De l'ornière, nous avons été emmenés par ce système du monde où nous dépendons des finances, du système financier du monde, nous dépendons des décisions économiques. Seigneur, nous déclarons que nous dépendons de toi. C'est toi seul qui prends soin de nous. Et Seigneur, nous voulons vraiment marcher dans l'obéissance, dans l'humilité, Seigneur, là où nous devons changer de façon de vivre. Nous voulons te laisser nous interpeller et marcher avec droiture, marcher dans les chemins que tu as prévus pour nous. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui connais nos besoins. Tu sais aussi là où nous avons besoin d'être un peu dans la difficulté pour apprendre des choses, mais tu ne nous laisses pas tomber. Seigneur, merci parce que tu nous conduis et tu nous enseignes et parce que tu nous donnes la victoire. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.